إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, c'est un plaisir de se retrouver ce soir pour commencer une série de cours sur un sujet d'une grande importance qui concerne la croyance des gens de la Sunnah. Et j'ai choisi pour cela que l'on étudie ensemble un poème intitulé « Al-Ha'iyah » exposant la croyance des gens de la Sunnah et du groupe et qui a été écrit par l'imam Al-Hafidh Abu Bakr Abdullah ibn Abi Daoud al-Sijistani, rahimahullah ta'ala. Il a exposé dans ce poème sa croyance, qui est la croyance authentique, correspondant à la croyance des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Comme vous le savez certainement, durant les premiers siècles de l'islam, au temps des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ainsi que ceux venus après eux, parmi les trois générations privilégiées, les musulmans avaient pour croyance tout ce qui se trouve dans le Coran et la Sunnah. Et ils croyaient en cela sans aucun doute ni aucune hésitation. Et ce car ils avaient foi en Allah subhanahu wa ta'ala et foi en son messager sallallahu alayhi wa sallam d'une foi forte et véridique. Ils ont donc cru en tout ce qui se trouve dans le Coran et la Sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ce, dans tous les domaines de la religion, sans ne remettre rien de cela en question, que ce soit dans le domaine de la croyance, ou dans le domaine des adorations, dans le domaine des transactions, dans le domaine du comportement, dans le domaine du licite ou de l'illicite, et ainsi de suite. Ils n'avaient aucun doute et aucune hésitation à accepter ce qui se trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, quel que soit le sujet abordé. Puis après cela, ont commencé à voir le jour différents groupes et différentes sectes parmi les groupes des gens de l'égarement et de l'innovation. Et ce, à la fin du temps des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. On commença à apparaître le groupe des Khawarij, le groupe des Chiites, le groupe des Murji'a, le groupe des Qadariya. Et les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, il n'y en avait aucun parmi eux qui n'était affilié à un de ces groupes. Bien entendu, ils étaient tous sur l'islam que leur avait enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans ne rien altérer à cette religion, ni en diminuer ni la modifier. Et les partisans de ces différents groupes, durant les trois premières générations privilégiées, ils n'apparaissaient pas au grand jour, mais ils cachaient leurs convictions et ils cachaient leurs oppositions à la voie de vérité. Et tous ceux parmi eux qui étaient amenés à proclamer une de leurs croyances déviantes, alors il en était empêché. Et il se peut même que dans certains cas, certains parmi eux furent condamnés par les gouverneurs de cette époque à la peine capitale, et ce, afin de préserver la religion. Après les générations privilégiées, certaines cultures étrangères ont commencé à s'introduire parmi les musulmans, comme la culture perse, la culture romaine, et ainsi de suite. Et à partir de là, certaines déviances ont commencé à apparaître. Et les prêcheurs à l'égarement ont été très actifs pour propager leurs idéologies déviantes. C'est pour cela qu'en réponse à leurs égarements, les gens de science, depuis les premiers siècles, ont fait de grands efforts pour exposer la croyance authentique, la croyance des gens de la sunna et du groupe, la croyance sur laquelle étaient les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anhum, la croyance qu'ils ont appris de sa bouche, et la croyance qu'ils ont enseignée à leurs disciples parmi les tabi'in, qui eux-mêmes ont enseigné à leurs disciples. Ils ont fait des efforts pour composer des ouvrages, réunir des hadiths et des athars au sujet de la croyance authentique. Et de multiples livres ont été écrits à ce sujet comme « Livre de la foi »,« Livre de sharia » ou « Les livres sur la sunna »,« Les fondements de la sunna » ou encore « Le livre du tawhid » et ainsi de suite. Et dans ces livres, ils exposaient la croyance authentique et réfutaient les croyances qui s'y opposent. Et ceci fait partie de la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette communauté afin de lui préserver sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala a placé parmi ses serviteurs ses savants afin qu'ils défendent cette croyance authentique et soient des causes de sa préservation. Après cela, certains parmi les gens de science ont également fait des efforts pour traduire cette croyance sous forme de poèmes. Et ce car les poèmes sont plus légers que des ouvrages qui seront développés. Et également les poèmes, ils sont concis et simples à apprendre. La personne aura donc de la facilité à le mémoriser et ainsi mémoriser de nombreuses questions parmi les fondements de la croyance des gens de la Sunna. Et parmi ces poèmes qui ont été écrits sur la croyance, il y a ce poème que nous allons commencer d'étudier aujourd'hui qui est Al-Ha'iyya de l'imam Ibn Abi Daoud, rahimahullah ta'ala. Et ce poème, il a été appelé Al-Ha'iyya, car l'ensemble de ses vers se termine par la lettre Ha, c'est-à-dire que toutes ses rimes sont en Ha. Et ceci est courant. Vous remarquerez que nombre de poèmes s'appellent ainsi. Pour ceux qui ont suivi avec nous la série de cours précédentes au sujet de la croyance des quatre imams, dans laquelle nous avons étudié ce poème attribué à Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui s'intitulait comment? Il s'intitulait Al-Lamiyyah. Pourquoi? Car l'ensemble de ces vers avaient des rimes en lam, avec la lettre lam. Également, on pourrait citer Al-Nuniyyah ou Al-Mimiyyah d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qui respectivement terminent par la lettre nun ou par la lettre mim. Donc il en est de même concernant ce poème. Tous ces vers se terminent par la lettre Ha, c'est pour cela qu'il a été appelé Al-Ha'iyya, au sujet de l'exposé de la croyance authentique, la croyance des gens de la Sunna et du groupe. Et dans ce poème, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a réuni des points essentiels de la croyance. Et il a réfuté également la croyance de nombre de groupes parmi les groupes des gens de l'innovation, comme vous allez le voir, inshallah ta'ala. Et j'incite tous ceux parmi nos frères et sœurs qui en ont les capacités de faire des efforts afin d'essayer de mémoriser ce poème. Car comme je l'ai dit, ces vers sont courts et très simples à mémoriser, inshallah ta'ala. Ils contiennent des fondements essentiels de la croyance, donc ceci fait partie des livres de base qui permettent aux musulmans d'avoir en tête ces fondements essentiels, inshallah ta'ala. Donc celui qui le peut, qu'il fasse des efforts autant que possible afin de mémoriser ce poème, inshallah ta'ala. Concernant son auteur, on a dit qu'il s'appelait Abu Bakr Abdullah ibn Abi Daoud. Qui est Abu Daoud? Abu Daoud, ce n'est pas un nom qui vous est inconnu. Car Abu Daoud, c'est Sulayman ibn al-Ash'ath, le grand imam du hadith, l'auteur des Sunan, Sunan Abi Daoud, qui est un des recueils de Sunan de référence chez les musulmans. Et Abu Daoud, rahimahullah, il faisait partie des élèves de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Donc l'auteur de ce poème, c'est son fils, Abdullah, qui avait pour kunya Abu Bakr. Et lui aussi, c'est un imam parmi les imams des gens de la Sunna. Il a pris la science de son père, ainsi que d'autres parmi les savants de son époque. Et il a une place éminente dans la science qui n'est pas moindre que celle de son père ou qui s'en rapproche. Il a donc écrit ce poème afin de clarifier la croyance authentique, la croyance des gens de la Sunna et du groupe. Et ce, de manière concise, comme on va le voir à travers cette brève explication, Inch'Allah ta'ala. Nous allons donc dès maintenant entrer dans le vif du sujet et commencer à lire les premiers vers de ce poème avec une explication concise de chacun d'entre eux, Inch'Allah ta'ala. Donc, dans les premiers vers, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a abordé un fondement essentiel parmi les fondements de la religion, qui est l'obligation de se cramponner au livre et à la sunna, au Coran, le livre d'Allah, et à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc dit: Tamassak bihablillahi wattabi'il huda, wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Cramponne-toi au câble d'Allah et suis la bonne voie, et ne sois pas un innovateur. Ainsi tu réussiras. On voit ici que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a commencé par ordonner à celui qui s'adresse, celui qui écoute ce poème ou celui qui le lit, à se cramponner au câble d'Allah. Donc il te dit à toi, ô musulman, Cramponne-toi au câble d'Allah. Et qu'est-ce que le câble d'Allah? Le câble d'Allah, c'est le Coran et la Sunna, comme il est venu dans l'explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 103 de Sourate Ali Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, c'est-à-dire cramponnez-vous tous ensemble au Coran et à la Sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith bien connu, le hadith d'Al-Irbad ibn Sariyah, radiyallahu ta'ala anhu: Celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Accrochez-vous donc à ma Sunna et à la Sunna des califes bien guidés après moi. Cramponnez-vous-y. On voit donc que les premiers mots qu'a dit l'auteur de ce poème dans ce vers, ils sont tirés du Coran et de la Sunna, de ce verset, de ce hadith que vous venez d'entendre. Donc l'ordre de se cramponner au câble d'Allah, c'est un ordre qui nous a été adressé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre son livre et il nous a ordonné de suivre la Sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ou en d'autres termes, il nous a ordonné de suivre la révélation. Et la révélation est de deux sortes. Il y a la révélation de son livre et il y a la révélation de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne prononçait rien sous l'effet de la passion, mais ce n'était qu'une révélation qui lui était inspirée. Il nous est donc ordonné de nous accrocher à cela, de nous cramponner au livre d'Allah et de nous cramponner à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car ceci est une manière de nous préserver de toute division et de toute divergence. La division et la divergence, mes frères, elles n'apparaissent chez les gens qu'en raison du fait qu'ils ne se cramponnent pas au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car si nous revenions tous à cela, que nous revenions tous au livre d'Allah, que nous revenions tous à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors nous mettrions fin à toute discorde, bi'inillahi ta'ala. Mais ceux qui ne se cramponnent pas au câble d'Allah, qui ne se cramponnent pas au livre d'Allah, qui ne se cramponnent pas à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors ils se divisent, de la même manière que se sont divisés les gens du livre avant nous. Alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, leur avait révélé un livre. Il a révélé la Torah, il a révélé l'Injil. Mais, étant donné qu'ils ne se sont pas cramponnés à ce qui est venu dans ces livres, ils se sont divisés et ont divergé. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir ordonné de nous cramponner au câble d'Allah, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna, qu'est-ce qu'il nous dit dans un verset suivant? Toujours dans Sourate Al-Imran, au verset 105. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que l'épreuve leur soit venue, après avoir eu le livre, et ceux-là auront un châtiment immense. Ceci est la voix des gens du livre qui nous ont précédés. Ils ont délaissé le livre de leur Seigneur, alors ils se sont divisés. Ceci est une conséquence inévitable du délaissement du suivi du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne prend pas sa religion et qui ne prend pas sa croyance du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors tous ceux qui empruntent cette voie, ils vont forcément diverger et se diviser. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Chaque groupe se réjouira de ce qu'il détient. Chacun va avoir un madhab, chacun va avoir un manhaj qui s'opposera à celui des autres. Et de ceci en découleront nombre de fitan, nombre de dissensions, nombre de discordes. Et le moyen d'éviter ces discordes, le moyen d'éviter ces troubles, c'est ce que nous a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah. Accrochez-vous au livre d'Allah et à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, dans tous les domaines de la religion. Et d'autant plus dans son fondement le plus immense, qui est la croyance. La croyance par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala réunit entre les cœurs des gens. Cette croyance par laquelle nous sommes devenus frères. Cette croyance qui est la raison de notre alliance et de notre désaveu. Ceci est d'une grande importance. Le musulman doit sans cesse faire des efforts pour se cramponner à cela, se cramponner à cette croyance qui se trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est exposée dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et prendre garde à ne pas suivre une autre voie que cela parmi les voies des gens de l'innovation et de l'égarement. Et tu dois sans cesse demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider sur cela, de te guider sur la vérité, de te guider sur le droit chemin et de t'aider à te cramponner à son livre et à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'auteur, il commence ce poème en disant « Tamassak bihablillahi » Ensuite il dit « Wattabi'il huda » Cramponne-toi au câble d'Allah et suis la bonne voie, suis al-huda. Al-Huda, c'est quoi? C'est la bonne voie avec laquelle a été envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 33 de Surat At-Tawbah, Huwa alladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullih walau karihal mushrikun. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne voie et la religion de vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les polythéistes. On voit donc dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Al-Huda. Al-Huda, c'est la science profitable. Et la religion de vérité, c'est quoi? C'est les œuvres pieuses. Et il est indispensable de réunir entre ces deux choses. Al-Huda, qui est la science profitable, et din al-haq, la religion de vérité qui est les œuvres pieuses. Ceci est indispensable. Et c'est pour cela que l'on récite dans chaque unité de nos prières cette sourate immense, sourate al-Fatiha, dans laquelle tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider sur le droit chemin. Ihdina s-sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa al-dallin. Guide-nous sur le droit chemin. Quel est ce droit chemin? Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Qui sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses faveurs? Ce sont ceux qui ont réuni entre la science profitable et sa mise en pratique, c'est-à-dire les œuvres pieuses. Ensuite, tu dis, non pas celui de ceux qui ont couru ta colère, c'est-à-dire ceux qui ont eu la science, mais qui ont délaissé sa mise en pratique, qui ont connu la vérité, mais qui ne l'ont pas mise en pratique, ni des égarés. Ceux qui ont œuvré sans science, qui ont instauré dans la religion ce qui n'en fait pas partie, comme le font nombre de personnes parmi les adorateurs ignorants. Quoi qu'il en soit, ce qu'il est important de retenir ici est que le fait de suivre la bonne voie nécessite obligatoirement le fait que tu apprennes la science profitable et que tu la mettes en pratique. Tu ne peux pas œuvrer sans science, sinon tu seras semblable aux chrétiens qui ont adoré Allah sans science et se sont égarés en religion. Et également, ce que tu apprends, il est nécessaire que tu le mettes en pratique. Que tu mettes en pratique cette science, car la finalité de ces cours, la finalité de ces assises dans lesquelles tu apprends des choses au sujet de ta religion, ce n'est pas simplement d'emmagasiner des données. Il y a des gens, mashallah, ils assistent à beaucoup de cours. Ils prennent beaucoup de notes, ils mémorisent. Mais où est la mise en pratique? On n'en retrouve que chez ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde la réussite. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi eux. Donc il est indispensable que tu réunisses entre ces deux choses. L'apprentissage de la science profitable et la mise en pratique de cette science en multipliant les œuvres pieuses. L'auteur te dit donc, cramponne-toi au câble d'Allah et suis la bonne voie. Wala takubida'i yalla'allaka tuflihu. Et ne sois pas un innovateur, ainsi tu réussiras. Ne sois pas un innovateur. Ne sois pas de ceux qui instaurent dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Car c'est cela l'innovation. Al-bid'a, c'est quoi? Al-bid'a, que l'on traduit par l'innovation, c'est ce qui est instauré en religion et qui n'a aucun fondement dans le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la définition de l'innovation. Ce qui est instauré en religion et qui n'a aucun fondement, aucune origine dans le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit d'innover en religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a sévèrement mis en garde contre cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, au verset 3 de Surat al-Ma'idah, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai parachevé pour vous votre religion, je l'ai complétée. Et accompli sur vous mon bienfait, j'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc l'islam, c'est une religion complète. Elle n'a pas besoin d'ajout. Elle n'a pas besoin de modification. Mais elle a été complétée, parachevée par Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, tu n'as pas besoin d'y ajouter une chose aussi bonne elle pourrait te sembler. Également, tu ne dois pas suivre aveuglément une personne qui aurait instauré des choses dans cette religion sans aucune preuve du livre d'Allah ou de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu ne dois te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala que par une chose qui est prouvée par les textes du Coran et de la sunna, et délaisser toute innovation. Que ce soit les formules de dhikr qui sont innovées, comme le font les soufis, ou alors des formes de prière qui sont innovées, et ainsi de suite parmi les innovations. Toute chose par laquelle on cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'a aucune origine dans le Coran et la Sunna, alors c'est une innovation. Même si l'intention de son auteur est bonne, même s'il est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il ne recherche par cela que le bien et la récompense de la part d'Allah et qu'il ne cherche pas à s'opposer à la religion, même s'il pense que c'est un bien, son œuvre est en réalité un mal et ne contient aucun bien. Car tout le bien ne se trouve que dans le Coran et la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé cette religion, comme on l'a dit, il n'a rien oublié. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 64 de surat Maryam, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا. Et ton Seigneur n'oublie rien. Et il dit subhanahu wa ta'ala au verset 38 de surat Al-An'am, مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Nous n'avons rien omis dans le livre. Donc tout le bien, il se trouve dans le Coran et la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui cherche à ajouter une chose à cela, une chose qui n'a pas d'origine dans le Coran et dans la Sunna, alors cette chose est une innovation qui est rejetée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 21 de surat Ash-Shura, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. Ont-ils des associés qui auraient légiféré pour eux en religion ce qu'Allah n'a jamais permis? Ceci est une réfutation de tout innovateur. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce célèbre hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum allahu ta'ala, d'après notre mère Aisha radiallahu ta'ala anha, celui qui instaure dans notre ordre une chose qui n'en fait pas partie, alors celle-ci sera rejetée. Et dans la version rapportée par Muslim, rahimahullah, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui met en pratique une chose que nous n'avons pas ordonnée, alors celle-ci sera rejetée. C'est-à-dire celui qui instaure en religion une chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas ordonnée. Celui qui met en pratique en religion une chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas ordonnée. Cette chose sera rejetée. Aussi sincère soit son auteur. Il n'est donc pas permis d'instaurer en religion une chose quelle qu'elle soit. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas enseigné, c'est qu'il n'y a aucun bien en cette chose, que cette chose ne rapproche pas d'Allah. Au contraire, elle éloigne d'Allah, car c'est une innovation, et toute innovation est égarement. Il n'y a aucun bien dans les innovations. Les innovations, elles ne peuvent pas te rapprocher d'Allah. Au contraire, elles ne peuvent que t'en éloigner leur auteur. Encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au contraire, celui qui se cramponne à la sunnah, celui qui fait en sorte de n'œuvrer qu'en conformité avec ce qui est venu dans les textes du Coran et la sunnah, alors celui-ci, il y a du bien dans ses œuvres. Il accomplit des œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, des œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, et des œuvres dont Allah subhanahu wa ta'ala rétribue leur auteur en bien. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'innovation, quelle qu'elle soit, elle est mauvaise, même si leur auteur prétend qu'il y a en elle un bien. En effet, il y a des gens qui prétendent que l'innovation elle se divise en deux catégories, bid'a hasana wa bid'a sayya, bonne et mauvaise innovation. Et la réponse à cette ambiguïté, elle est très simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, d'après Jabir radiallahu ta'ala anhu, kullu bid'atin dalalah. Toute innovation est égarement. Donc à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit toute innovation est égarement, Comment une personne peut venir après lui et dire « Non, mais il y a de bonnes innovations ». Celui-ci s'oppose clairement à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'il reniait la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou alors qu'il la traitait de mensonge, wal iyad billah. Et comme on le rapporte de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit une phrase dont le sens rapproché est que celui qui prétend qu'il y a dans l'islam de bonnes innovations, alors il prétend en réalité que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Pourquoi il a dit cela? Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a parachevé sa religion. Elle est complète. Il n'y a rien à y ajouter. Donc celui qui prétend qu'il y a une bonne innovation, c'est comme s'il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas transmis cette chose. Car Allah nous dit que la religion est complète. On voit donc que ce sujet n'est pas un sujet à prendre à la légère. Mais c'est une affaire très grave en réalité. Et comme vous l'avez entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute innovation est égarement. Et si tu médites sur ceux qui disent qu'il y a de bonnes innovations, tu verras qu'en réalité, certains parmi eux vont mentionner des choses qui ne sont pas des innovations. Ils vont dire que la construction d'écoles, ou l'ouverture d'universités pour l'apprentissage de la religion, ou alors la composition de livres, que ceci sont des bonnes innovations. Mais en réalité, ceci, ce ne sont pas des innovations. Mais elles font partie des choses qui ont été encouragées par la religion. Car ce sont des moyens qui nous permettent d'atteindre des objectifs qui sont légiférés à la base dans la religion. Cela fait partie des œuvres pieuses, des bonnes actions. Ce sont des moyens d'atteindre le bien, bi'idhnillahi ta'ala. Ce ne sont donc pas des innovations. Mais cela rentre dans la généralité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa » et entraidez-vous dans le bien et la piété. Un autre argument sur lequel se base nombre de partisans parmi les gens de l'innovation, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala d'après Jarir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui instaure en islam une bonne sunnah, il a alors sa récompense et la récompense de tous ceux qui la mettront en pratique. » Ils ont donc dit, on voit qu'ici, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui instaure une bonne sunnah, il en sera récompensé. » Ceci prouve qu'il y a des bonnes innovations. Et la réponse à cette ambiguïté, elle est très simple également. Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a dit une bonne sunnah, il n'a pas dit une bonne innovation, mais il parle de sunnah. Donc qu'est-ce qui est visé? Ce qui est visé, comme l'ont mentionné les gens de science, c'est celui qui fait vivre une sunnah qui n'était pas mise en pratique. Ou alors celui qui sert de modèle dans le bien, dans la mise en pratique de la sunnah, une sunnah qui était ignorée par les gens, ou une bonne action qui était délaissée par les gens, et qui appelle les gens à cette bonne action, au suivi de cette sunnah. Alors il aura la récompense de ses actes et la récompense de ceux qui vont mettre en pratique ce à quoi il les a appelés. C'est cela qui est visé par ce hadith. Que tous les gens qui vont le suivre dans ce bien et mettre en pratique cette sunna, non pas cette bid'a, alors il en sera récompensé pour cela. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a en aucun cas ici parlé d'innovation, mais il a parlé de sunna. Donc l'enseignement de la science profitable ou la mise en place de ce qui aide à l'étude de la science, comme l'ouverture d'écoles, l'ouverture de marakez, tout ceci fait partie des choses qui mènent à un objectif légiféré, qui est l'apprentissage de la science. Et ceci ne fait en aucun cas partie des innovations. Également, certains ont comme ambiguïté, lorsqu'on parle des innovations, que dans ce cas-là, on devrait délaisser toutes les choses nouvelles, toutes les choses modernes, comme les moyens de transport modernes, les voitures, les avions, ou alors les nouvelles technologies, les téléphones, les ordinateurs, et ainsi de suite. Ils disent, eh bien, si toute innovation est mauvaise, alors délaissez aussi cela, car ces choses-là n'existaient pas au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Également, la réponse à cette ambiguïté, elle est très simple. Lorsqu'on parle d'innovation, on parle d'innovation en religion. On ne parle pas des choses de la vie mondaine. On ne parle pas de l'industrie. On ne parle pas de technologie, on parle de religion. C'est cela qui est interdit. Mais les innovations industrielles, les innovations technologiques, elles sont permises. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, au verset 13 de Sourate Al-Jathiyah, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. C'est-à-dire que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a assujetti afin qu'on en profite, afin qu'on en tire des avantages. Donc la base en ce qui concerne ces affaires-là est la permission. Et ceci n'a aucun lien avec les adorations. Donc bien que ce soit Des innovations dans le sens linguistique du terme, ce ne sont pas des innovations dans le sens religieux. Il est donc nécessaire pour le musulman de faire la différence entre ces choses afin que les gens de l'égarement ne le trompent pas. Car comme je l'ai dit, nombreux parmi eux disent, donc, si toutes ces choses sont des innovations, vous devez les délaisser, car elles n'existaient pas au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On leur répond donc que ce n'est pas cela qui est visé. Mais ce qui est visé par l'interdiction des innovations, c'est tout ce qui concerne la religion, tout ce qui concerne les œuvres par lesquelles on espère se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ce qui n'est pas confirmé par les textes, tout ce qui n'est pas basé sur une preuve du livre d'Allah ou de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui fait partie des œuvres ou des paroles par lesquelles on espère se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors ceci fait partie des innovations en religion qui doivent être délaissées. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Wala taku bid'iyya la'allaka tuflihu » et ne sois pas un innovateur, ainsi tu réussiras. Ainsi tu réussiras, c'est-à-dire que si tu veux la réussite, si tu veux le succès, si tu veux le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, tu dois impérativement te cramponner au câble d'Allah, suivre la bonne voie et ne pas faire partie des gens de l'innovation. Telle est la voie de la réussite, la voie du succès, la voie qui te mènera au paradis bi'idhnillahi ta'ala. Il est indispensable que tu accomplisses ces trois choses. La première est que tu te cramponnes au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième est que tu suives la bonne voie. Et la bonne voie, on a vu que cela signifie apprendre la science profitable et la mettre en pratique. Et la troisième chose, c'est que tu t'écartes de toute innovation religieuse. Si tu délaisses une de ces trois choses, alors tu es en grand danger car tu risques la perdition qui est le contraire de la réussite, walayadu billah. Et lorsqu'on parle de perdition, ici on ne parle pas de la perte des biens mondains, on ne parle pas de perte d'argent, mais on parle du fait que tu perdes ta propre personne. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, au verset 15 de Sourate Az-Zumar, قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Dit, les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé la perte de leurs propres âmes et celle de leur famille. C'est bien cela, la perte évidente. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cette perte. Donc l'auteur, il te dit que si tu fais ces trois choses, que tu te cramponnes au livre d'Allah, à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, que tu suis la bonne voie et que tu t'écartes des innovations, ainsi tu réussiras. Et il dit ici en arabe, la'allaka tuflihu, c'est-à-dire j'espère que tu obtiennes la réussite. Car il fait partie de la croyance authentique, la croyance des gens de la sunna, de ne pas affirmer de la réussite d'une personne, sauf ceux dont il est attesté dans le Coran ou la sunna qu'ils font partie des gens de la réussite. Quant aux autres, alors, nous n'affirmons pas cela de manière certaine, mais nous espérons pour le bienfaisant et nous craignons pour le malfaisant. Et de la même manière en ce qui te concerne, tu ne dois pas te laisser leurrer par tes œuvres. Si tu fais des efforts pour te cramponner au livre d'Allah et à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, que tu fais des efforts dans le bien, que tu fais des efforts pour suivre la bonne voie, que tu t'écartes des innovations, tu ne dois pas te laisser leurrer par cela et penser que tu as tout gagné et que tu as obtenu la réussite. Non. Tu dois avoir une bonne opinion de ton Seigneur, espérer le bien. Mais tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te place parmi ceux qui réussissent. Et œuvrer pour cela. Ne pas te contenter d'espérer sans œuvre. Car ceci est un espoir qui est mensonger. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit وَدِنْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَنِ اللَّتِي أَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَنْجُو وَتَرْبَحُ. Et base ta religion sur le livre d'Allah et les traditions venues du messager d'Allah, tu seras sauvé et gagnant. Ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, insiste sur ce point qui est le fait que tu bases ta religion sur le livre d'Allah, sur le Coran et sur la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que toutes tes œuvres, elles doivent être basées sur le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elles ne doivent pas être basées sur les passions. Elles ne doivent pas être basées sur les opinions des gens, elles ne doivent pas être basées sur les innovations ou les choses nouvellement instaurées en religion. Mais tu suis le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Car ceci sont les deux sources fondamentales de notre religion. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme on a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Donc la sunna, c'est une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est confirmé de manière authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire pour nous de l'accepter. Il est obligatoire pour nous de le suivre. Il est obligatoire pour nous de le mettre en pratique. Et on ne doit pas faire comme nombre de personnes parmi les gens de l'égarement qui renient la sunna ou qui prétendent que le Coran leur suffit. Il n'y a pas de doute que ceci est un égarement évident. Car mettre en pratique la sunna revient à mettre en pratique le Coran. Et il n'est pas possible de mettre en pratique le Coran comme il se doit si ce n'est en mettant en pratique la sunna. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre au verset 7 de Surat al-Hashr وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Celui qui obéit au messager, il a certes obéi à Allah. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, au verset 158 de Surat al-A'raf, وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Et suivez-le, ainsi vous serez bien guidés. Il dit aussi au verset 56 de Surat al-Nur, وَاطِعُوا الرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et obéissez au messager, ainsi on vous fera miséricorde. Donc ceux qui prétendent mettre en pratique le Coran et qui délaissent la Sunnah, alors en réalité ils n'ont pas mis en pratique le Coran. Car le Coran leur ordonne d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam et leur ordonne de suivre la Sunnah. Car la Sunnah elle vient expliquer le Coran et le détailler. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 44 de Surat al-Nahl, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Et nous avons descendu vers toi le rappel, afin que tu expliques aux gens ce qui leur a été descendu. Donc dans la sunna, tu trouveras une explication du Coran. Et il n'est pas possible de délaisser la sunna et prétendre se contenter du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, on m'a donné le Coran et son équivalent, c'est-à-dire la sunnah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 113 de Surat al-Nisa, وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Et Allah a descendu sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran, et la sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, c'est sa sunnah. La sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Il leur enseigne le livre et la sagesse. Il leur enseigne le Coran et il leur enseigne la sunnah. Donc la sunnah, c'est un fondement essentiel de notre religion. Et il n'est pas possible de prétendre s'en passer en se contentant du Coran. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, ici, il nous dit donc وَدِنْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَنِ اللَّتِي أَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَنْجُو وَتَرْبَحُ. Et base ta religion sur le livre d'Allah et les traditions venues du messager d'Allah, tu seras sauvé et gagnant. C'est-à-dire que si tu te bases dans ta religion sur le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui est confirmé de lui dans les hadiths authentiques, alors tu seras gagnant, inshallah ta'ala. Et tu seras sauvé de l'égarement. Tu seras sauvé ici-bas de l'égarement et tu seras sauvé dans l'au-delà du feu de l'enfer, bi'idhnillah ta'ala. Quant à ce qui vient d'autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui qu'il soit parmi les hommes, alors on regardera si ce qui vient de lui est conforme au texte du Coran et de la Sunnah. Si cela est conforme, alors cela est accepté. Et si cela s'y oppose, cela est rejeté. Et c'est cela qu'ont enseigné les grands imams de l'islam. Et parmi eux, les quatre imams Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, rahimahumullahu ta'ala. À titre d'exemple, l'imam Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, dit cette parole célèbre. Si ma parole s'oppose à la parole du messager d'Allah, alors prenez la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et jetez ma parole contre le mur. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala, il dit également cette parole bien connue, de chacun d'entre nous, on prend, on rejette, sauf celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car l'imam Malik rahimahullah ta'ala, c'est l'imam de Médine. Il enseignait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit qu'il n'y a que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dont toutes les paroles sont acceptées de manière absolue, car ces paroles sont révélations de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est conforme au livre et à la sunna, on l'accepte, et ce qui s'y oppose, alors on le rejette. Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a également dit une parole bien connue à ce sujet. Il a dit: je suis surpris de gens qui connaissent la chaîne de transmission et son authenticité. C'est-à-dire qu'ils connaissent un hadith et qu'il est rapporté authentiquement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit: et malgré tout, ils prennent l'avis de Sufyan. C'est-à-dire Sufyan al-Thawri, un des grands imams parmi les imams de l'islam. Donc il dit qu'il est étonné de cela. Comment les gens peuvent prendre l'avis de Sufyan, malgré que c'est un grand imam, et délaisser ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a ensuite récité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 63 de Surat An-Nur, dans lequel il dit: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux qui s'opposent à son commandement, c'est-à-dire au commandement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Telle est la menace sévère qui pèse sur ceux qui délaissent les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui délaissent les textes clairs du Coran et de la Sunna pour les paroles d'un tel ou un tel parmi les gens de science, aussi éminents soient-ils. Il n'est pas permis pour le musulman de prendre la parole d'un savant qui qu'il soit si celui-ci s'oppose au texte clair du Coran et de la Sunna. Et ceci est strictement interdit et fait partie des méfaits desquels le musulman doit s'éloigner. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on verra dans le prochain cours, la semaine prochaine, les vers suivants dans lesquels l'auteur, rahimahullah ta'ala, a expliqué la croyance authentique concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.